Radio Prague, les informations.
Bonjour. Selon le service de renseignement, les affrontements entre extrémistes et policiers sont appelés à se multiplier. Les Roms de Moravie du Nord ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour lui réclamer des mesures d'urgence. Et enfin, depuis jeudi, la République tchèque est le dernier pays européen à ne pas avoir soumis le traité de Lisbonne au processus de ratification. Selon le service de renseignement du pays, de violents affrontements entre extrémistes, partisans de l'extrême droite et la police sont appelés à se répéter dans un proche avenir. L'information a été communiquée vendredi et fait suite au débordement de la manifestation de lundi à Litvinov, en Bohême du Nord, au cours de laquelle 1200 policiers ont fait front à environ 600 radicaux, essentiellement membres du parti ouvrier, qui tentaient de pénétrer dans une cité de la ville habitée par de nombreux Roms. Un membre du conseil gouvernemental chargé des affaires de la communauté rome a pour sa part indiqué qu'une vague de violence civile menaçait le pays. De leur côté, les Roms de la région de Moravie-Silésie ont rédigé une lettre ouverte à l'attention du Premier ministre Mirek Topolánek, dans laquelle ils avertissent celui-ci d'une possible émigration de masse des Roms en cas de multiplication de manifestations de racisme comme celle de Litvinov. Rappelons que les violences de lundi ont été les plus importantes en République tchèque de ces 8 dernières années. L'association des Roms de Moravie du Nord appelle le chef du gouvernement à trouver rapidement une solution et à adopter les lois permettant d'interdire les groupes d'extrême droite. Suite à la ratification du traité de Lisbonne par la Suède jeudi, la République tchèque est devenue le dernier des 27 pays membres de l'Union européenne avec l'Irlande à ne pas encore avoir soumis le traité réformateur des institutions européennes au processus de ratification. Le Parlement tchèque attend le verdict de la Cour constitutionnelle qui doit décider si certains passages du traité sont en conformité avec la constitution du pays. Ce jugement pourrait être rendu mardi prochain. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans nos faits-événements. Politique toujours, le mouvement baptisé Non-Violence et la Ligue des maires contre le radar ont envoyé vendredi une lettre au président américain nouvellement élu Barack Obama dans laquelle il lui demande de réévaluer l'implantation d'un radar sur le territoire de la République tchèque dans le cadre du système de défense antimissile américain en Europe. Par ailleurs, dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne, le mouvement Non-Violence et la Ligue des maires entendent mener une intense campagne contre l'installation du radar afin que le Parlement européen se penche sur le dossier et adopte une position ferme. Un mot de culture également, rappelons que le Festival du film français s'est ouvert jeudi à Prague par une soirée en présence du réalisateur Jean-François Richier pour l'avant-première du film Mesrine, l'instinct de mort, premier volet du diptyque sur Jacques Mesrine, l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire du banditisme français. La clôture du festival aura lieu le 26 novembre avec la projection du film Entre les murs, couronné de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. On termine avec un mot de météo, c'est un temps couvert qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Céciliers selon le calendrier local. Les nuages entraînent des averses à caractère local, précipitations qui se transforment en chutes de neige au-dessus de 500 mètres. Les températures se situent entre moins 2 et 2 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le sort de la ratification du traité de Lisbonne en République tchèque demeure incertain. Nous vous expliquerons pourquoi. La menace de la montée de l'extrême droite en Tchéquie est-elle réelle? Réponse dans la suite de ce programme. Michak, tel est le nom d'une très célèbre pâtisserie qui vient d'être rouverte après de longs travaux de rénovation au centre de Prague et dans laquelle nous aurons le plaisir de vous inviter. Quelques mots à la fin au sujet d'une intéressante exposition de photos aux couleurs tchèques et françaises. Après l'adoption du traité de Lisbonne par le Parlement suédois, la République tchèque demeure désormais le seul pays des 27 à ne pas avoir encore soumis ce document au processus de ratification. Celle-ci dépend maintenant du verdict de la Cour constitutionnelle qui examine sa compatibilité avec la constitution du pays. Ce n'est qu'après qu'il pourra être soumis aux deux chambres du Parlement. Outre les communistes et une partie de l'ODS, l'ensemble des partis politiques tchèques est favorable à la ratification du traité. Une cacophonie des voix à ce sujet demeure pourtant présente sur la scène politique tchèque. On écoute un commentaire du social-démocrate Jan Hamáček.
La situation actuelle est telle que nous présentons comme des partenaires qui ne sont pas dignes de confiance. Nos collègues à l'Union européenne ne savent pas ce que la République tchèque pense vraiment, puisqu'elle diffuse des signes assez chaotiques. Le Premier ministre et le chef de la diplomatie signent le traité de Lisbonne, tandis que le président de la République le critique et la coalition gouvernementale elle-même ne sait pas comment s'y prendre.
Après de 6 semaines du début de la présidence tchèque de l'Union européenne, la controverse existe à ce sujet, notamment au sein du principal parti gouvernemental, le Parti civique démocrate, ODS, entre le Premier ministre Mirek Topolánek et chef de l'ODS et Pavel Bém, numéro 2 du parti, qui aspire au poste de chef de cette principale formation de l'actuelle coalition gouvernementale. Mirek Topolánek, de concert avec la majorité des électeurs et des membres de ce parti, est partisan du « oui ». Selon une déclaration qu'il a faite récemment pour le quotidien Mladá Frontanes, la Tchéquie n'a que 2 possibilités, soit adopter le traité de Lisbonne, soit redevenir un vassal de Moscou, il explique.
En dépit de tous les problèmes qui y sont liés, j'ai d'ailleurs été auparavant assez critique au sujet du traité ainsi qu'au sujet de la Constitution européenne, je pense qu'il est plus avantageux pour nous de pouvoir influencer activement les choses que de rester passivement à la périphérie.
Pavel Bém, qui disputera son duel avec Mirek Topolánek au congrès de l'ODS le 5 décembre, privilégie une autre vision, le refus du traité de Lisbonne et l'ouverture d'un débat lors de la prochaine présidence tchèque sur un document beaucoup plus court qui le remplacerait et qui serait compréhensible pour tout un chacun. Ce discours a certes tout pour plaire au président eurosceptique Václav Klaus, qui d'ailleurs soutient ouvertement le courant de Pavel Bém. Pour le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg, cependant, ses propos trahissent l'inexpérience du maire de Prague en politique européenne. Les affrontements qui ont eu lieu le 17 novembre à Litvino, ville industrielle de Bohême du Nord, ont dévoilé certaines causes du développement des idées extrémistes au sein de la société et de la montée de l'extrême droite dans le pays. Le sujet est développé par Alain Sivinski.
L'extrême droite se prépare à marcher sur la cité de Janov à la périphérie de Litvino pour la 3e fois cette année. D'après Yitka Kokiova de l'association des Roms de Janov, une nouvelle attaque de la cité par les néo-nazis pourrait avoir lieu le 29 novembre ou le 6 décembre. Tomáš Vandas, président du parti ouvrier, qui était le principal organisateur des émeutes du 17 novembre, n'a pas démenti cette information en ajoutant que la date de la nouvelle marche sur la cité de Janov n'a pas encore été fixée. Par contre, il ne cache pas la raison de celle-ci. Le mauvais comportement des habitants roms de ce quartier ne plaît pas au parti ouvrier. C'est la même motivation qui a conduit les néo-nazis aux affrontements avec la police le 17 novembre, lors desquels la police a réussi à éviter des heurts entre les néo-nazis et les Roms, une intervention qui a coûté environ 1,5 million d'euros. Que va donc faire la municipalité dans le cas d'une nouvelle attaque de la cité Janov? La réponse nous est donnée par le maire adjoint de Litvinov, Martin Klika.
Nous devons bien sûr respecter la loi et nous allons consulter cette affaire avec la police. Il faut qu'il y ait des preuves que l'ordre a été troublé, que la vie ou la santé des citoyens ont été menacées. Et dans ce cas, la mairie se doit de réagir. Nous ne pouvons rien faire seuls. La situation est réellement grave. La colère peut éclater au sein de la communauté rom, aussi bien que chez les anciens résidents, qui sont aussi l'objet d'attaques verbales. La situation n'est vraiment pas bonne.
Il s'avère que, comme dans d'autres pays, l'extrême droite s'efforce toujours d'exploiter les problèmes brûlants de la société, qu'elle soit tchèque, comme dans le cas des Roms ou du radar américain en Tchéquie, ou mondial, comme dans le cas de l'antisémitisme. Il semble que pour ralentir la montée de l'extrémisme, du néonazisme, il faudrait tout d'abord régler les problèmes que leur mouvement exploite. Le gouvernement et les autorités locales en sont bien conscients et le vice-premier ministre Jiří Čunek a abordé cette question à la conférence sur la politique régionale, jeudi, à Brno. D'après lui, le problème de la communauté rome et ses conséquences, dont le développement des activités des mouvements extrémistes, demande à ce que des mesures soient prises dans tout le pays. Ce sont les communautés locales, les municipalités, qui doivent trouver et appliquer des solutions. Pour cela, il est indispensable qu'elles reçoivent les moyens financiers nécessaires de la part de l'État. Et selon Jiří Čunek, il s'agirait d'une somme d'un demi-milliard d'euros seulement pour régler le problème des 300 ghettos qui existeraient en Tchéquie. Le premier ministre Mirek Topolánek a annoncé que la police interviendra contre toute violation de l'ordre public et que le gouvernement soutiendra la proposition du ministère de l'Intérieur d'interdire le parti ouvrier. D'autres formations de l'extrême droite pourraient aussi être interdites.
Les amateurs pragois de sucreries jubilent. La célèbre pâtisserie Michak, le haut lieu des plaisirs de la table, renaît de ses cendres. La glorieuse tradition de cet établissement, situé dans la rue Vodichkova, au centre de la capitale, avait été brutalement interrompue dans les années 90. La pâtisserie, fermée depuis de longues années, sera maintenant rouverte à la grande joie de tous ceux qui aiment les sucreries tchèques classiques. Václav Richter.
Dans les années 1930 du siècle dernier, la pâtisserie Michak était beaucoup plus qu'un simple établissement de restauration. Le fondateur de la maison, František Michak, a su lui donner un caractère exclusif et en a fait un endroit de rencontres élégantes, un centre de la vie mondaine. Parmi ses clients, il y avait, entre autres célébrités, le président Tomáš Garrigue Masaryk, une des plus grandes cantatrices de son temps, Emma Destinová, et le jeune premier du cinéma tchèque, Oldřich Nový. L'architecte Jan Špaček, auteur de la dernière rénovation, rappelle que la pâtisserie qui se trouvait d'abord dans un édifice néo-renaissance a été retapée vers la fin des années 1920 dans le style de l'époque.
Ta rekonstrukce, ta art décova, probéhala panem Michakem v roce 1920.
La reconstruction de l'édifice dans le style art déco a été réalisée par le propriétaire de l'établissement, František Michak, en 1929, et les photos de cette époque se sont conservées.
C'est grâce à ces photos que la dernière rénovation a pu donner à l'établissement le caractère qu'il y avait il y a 80 ans. Derrière une façade très originale dans le style appelé rondo-cubisme, les clients trouveront trois étages aménagés avec luxe et confort. Le menu proposé reprendra en partie celui des années 30 et il est donc plutôt déconseillé aux clients guettés par l'obésité. Le chef pâtissier Pavel Juraška a cependant pensé aussi à ceux qui préfèrent la cuisine plus légère.
Nous avons divisé notre assortiment en trois catégories. Dans la première catégorie, il y a des tartes classiques, dans la deuxième, des gâteaux aux fruits et à la crème, et dans la troisième catégorie, ce qui est très demandé à l'époque actuelle, il y a le chocolat, des pralines et les bonbons au chocolat.
La carte de l'établissement sera donc riche et séduisante. Nombreuses variétés de tartes pleines de crème de vanille, de noisettes ou de chocolat, tout cela préparé avec beaucoup de beurre et d'œufs, mais aussi des gâteaux moins riches en calories ainsi que des glaces maison d'une vingtaine de parfums. Le chef pâtissier s'est inspiré de vieux livres de cuisine et a consulté ses recettes avec une vieille pâtissière ayant jadis travaillé dans la maison. Le manager de la société Ice Art, Petr Freiwald, souligne que la maison proposera les articles de la meilleure qualité invite les potentiels clients.
L'ouverture officielle de la pâtisserie Michak aura lieu ce samedi à 10h. La pâtisserie sera ouverte de 8 à 22h tous les jours de la semaine. Et dès le mois de janvier ou février, nous chercherons à agrémenter le séjour de nos clients dans la pâtisserie par des productions musicales.
Pour l'instant, il semble que les prix de ces délices sucrés seront abordables. Les parts de tartes et de gâteaux coûteront entre 30 et 70 couronnes, quelque 1 à 3 euros, et les prix de diverses sortes de cafés varieront à partir de 50 couronnes, soit 2 euros. Le cadre, les traditions et le luxe de la première République tchécoslovaque seront offerts par la maison.
Beautiful People et La blessure secrète est une exposition collective qui vient d'ouvrir ses portes au deuxième étage de l'ancien hôtel de ville de Prague. Elle est à découvrir jusqu'au 18 janvier prochain. Hilde Terling est la directrice du Fonds régional d'art contemporain Nord-Pas-de-Calais, d'où proviennent les œuvres exposées. Anna Kubischthal a interrogé.
Première question, tout simplement, j'aimerais que vous me présentiez un peu cette exposition qui s'appelle Beautiful People et la blessure secrète. Comment est-elle née? C'est une exposition qui rassemble énormément d'artistes, une exposition photo.
Alors, c'est une exposition qui est organisée par le FRAC Nord-Pas-de-Calais. Donc, le FRAC, c'est une institution qui existe en France, qui a une collection d'art contemporain. En France, il y a 22 FRAC. Donc, chaque région a son FRAC avec un fonds international. Et le but, c'est de montrer les œuvres d'art à un public le plus large possible, en région internationalement. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est aujourd'hui à Prague pour le vernissage de cette expo. Alors, c'est une invitation qu'on a fait au commissaire d'expo Miguel Bardajil, qui est une critique d'art qui vit à Barcelone et qu'on a demandé de jeter un regard sur la collection, parce que je pense qu'une collection a besoin de multiples regards, surtout une collection d'art contemporain. Et donc lui, il est venu avec l'idée d'une sélection d'œuvres dont la majorité c'est de la vidéo et de la photo, qui tourne autour de la thématique, bon, le titre le dit, c'est Beautiful People et la blessure secrète.
Alors c'est quoi justement cette blessure secrète et un peu le paradoxe de ce titre? Est-ce que vous pourriez un petit peu l'élucider?
Alors oui, effectivement, ça, d'une part ça parle du corps et la représentation du corps et de la beauté, et d'autre part ça parle de la blessure secrète. La blessure secrète est une référence à Jean Genet qui disait que la blessure secrète c'est ce qui est caché derrière la beauté, qui est l'attraction, la séduction, la fragilité, la rupture. Alors, si on regarde la sélection des photos et des œuvres qui sont ici, je dirais presque qu'on est confronté en premier plan avec tout ce qui est la séduction, le désir, tout ce que dit Jean Genet, qu'il appelle la blessure secrète. Et la beauté vient qu'en deuxième plan pour moi. Donc, c'est en effet l'identité de la personne finalement qu'on retrouve dans l'intimité, dans la blessure qui forme notre caractère, notre personne.
Alors il y a beaucoup d'artistes qui sont exposés ici, et particulièrement pour, le public tchèque, il y a deux artistes tchèques, un qui est malheureusement disparu, Jiří Kolář, qui est connu pour être un poète et un collagiste notamment, entre autres, et Josef Koudelka, qui est connu notamment pour ses photographies de l'invasion soviétique en 1968, mais pas seulement.
Tout à fait. Alors Jiří Kolář, c'est une pièce qui est dans la collection depuis 20 ans, donc c'est une pièce qu'on a achetée il y a quelques années. Et c'est une très belle pièce parce qu'elle va très bien avec l'exposition, parce que c'est un portrait d'un peinture d'Ingres. On sait pas, mais les figures, Ingres a toujours envie de styliser, de faire plus fin, plus maigre, plus élégante les femmes. Et donc Jiří Kolář, ce qu'il a fait, c'est il a manipulé à travers des collages l'image pour justement l'élargir, donc le rendre un peu plus rond et vraiment exagéré dans cet effet. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Koudelka, par contre, a eu une toute autre trajectoire. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en France et qui a travaillé pour l'agence Magnum. Donc, c'est un très grand photographe. Et là, on présente quelques photos qu'il avait prises dans les années 60, début 80, 70, qui parlent un peu de la vie des gitans et tout ça.
C'était donc les faits événements en République tchèque, mais ne quittez pas l'écoute.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Prague et voici venu le temps de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'économie, une émission dans laquelle aujourd'hui nous parlerons d'abord des négociations sur la politique agricole commune qui se sont déroulées jeudi à Bruxelles. Ensuite, nous nous rendrons en France pour parler d'une nouvelle forme de solidarité entre plusieurs syndicats européens.
Les aides directes que les agriculteurs européens reçoivent de l'Union européenne seront réduites dès l'année prochaine, notamment pour ceux en recevant le plus, pour être redirigées vers des projets de revitalisation du monde rural. Les ministres de l'agriculture des 27, réunis à Bruxelles, se sont mis d'accord jeudi matin, au terme d'une nuit de négociation, sur le bilan de santé de la politique agricole commune, une révision à mi-parcours de la réforme datant de 2003, avant une refonte plus complète en 2013. Le texte final, adopté par les États membres, a permis de dégager un compromis qui à la fois tient compte des desiderata des grands pays agricoles et règle les trois points les plus épineux des négociations, à savoir le volume des aides directes aux agriculteurs, redirigées vers le développement rural, les quotas laitiers et les outils dont disposent les pouvoirs publics pour intervenir sur les marchés des matières premières agricoles. Et pour le ministre tchèque de l'Agriculture, Peter Gandalovic, l'accord trouvé jeudi est un bon compromis. Je pense qu'en aucun cas on ne peut le considérer comme une victoire, mais c'est un pas dans la bonne direction. Voilà ce qu'a déclaré le ministre tchèque de l'Agriculture, Peter Gandalovic. Alors, est-ce que la PAC a été sauvée grâce à ce bilan de santé? On écoute maintenant le ministre français de l'Agriculture, Michel Barnier.
Il y a eu une période, il y a 3 ou 4 ans et encore récemment, où il y avait une sorte de grand vent ultra-libéral et tous ceux qui ont de l'Europe l'idée qu'elle doit être simplement une zone de libre-échange, tous ceux qui pensent que le marché règle tous les problèmes, alors même qu'on parle d'alimentation des gens, et on ne parle pas de voitures, on ne parle pas de téléviseurs, moi je ne crois pas qu'on puisse laisser l'alimentation à la seule loi du marché. Tous ceux-là ont en effet eu l'idée de détricoter la politique agricole commune en disant au fond le marché peut tout régler. Et on voit bien avec la crise financière venue des États-Unis qu'on a besoin de gouvernance, qu'on a besoin de politique commune, là où elle n'existe pas. Et quand on en a, gardons-les. C'est le cas de la politique agricole, c'est de la gouvernance économique agricole depuis 40 ans et c'est ça qui explique qu'on ait préservé notre modèle agricole, et alimentaire et territorial.
Et dans la deuxième partie de cette émission, une fois n'est pas coutume, nous nous rendons en France. Jan Zlamal est salarié de l'usine PSA de Kolín, en République tchèque. Il regrette de ne pas avoir pu visiter le site d'Aulnay et comparer les conditions de travail avec celles de son usine. Initiative inédite en France dans l'industrie automobile, un syndicat du constructeur PSA Peugeot Citroën, la CGT, a invité des salariés tchèques et slovaques à rencontrer leurs collègues français. Une initiative moyennement appréciée par la direction, c'est un reportage RFI signé Mounia Daoudi et diffusé sur Radio Prague dans le cadre du consortium européen Euranet auquel Radio Prague est associé depuis le début. On l'écoute.
La CGT de PSA est particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui 4 camarades du syndicat Kovo, des usines PSA de Kolín en Tchéquie et de Trnava, Slovaquie.
Ils sont une centaine de salariés français à s'être réunis cet après-midi sur le parking de l'usine Citroën d'Aulnay, dans la région parisienne, pour accueillir symboliquement leurs 4 collègues venus de Slovaquie et de République tchèque. Symboliquement, car les Français auraient bien aimé les accueillir à l'intérieur de l'usine, comme l'explique Jean-Pierre Mercier du syndicat CGT à l'origine de cette initiative.
C'est vu d'un très très mauvais œil par la direction de Peugeot Citroën qui a refusé qu'ils visitent l'usine d'Aulnay. Donc on a tenté le coup par souci d'ouverture parce que voilà, nous ça nous semblait tout à fait normal. Maintenant la direction a pris peur que le contact se fasse d'une manière naturelle sur les chaînes de production.
Cela n'enlève toutefois rien au plaisir de Philippe Julien, délégué du personnel CGT à l'usine d'Aulnay.
Ah, je suis tout à fait content d'accueillir ces camarades-là. On nous a tellement dit qu'on est en concurrence avec eux, etc. En discutant avec eux, on se rend compte que c'est l'inverse, que eux-mêmes et nous-mêmes, on se considère pas comme étant en concurrence. Et du travail, il y en a pour tout le monde. Le problème, c'est effectivement les millions et les milliards que PSA a gagnés. Donc 10 milliards depuis 1999 de profits engrangés. Eh ben, ça pourrait servir à créer des emplois, à faire travailler tout le monde. Voilà.
Jan Zlamal est salarié de l'usine PSA de Kolín en République tchèque. Il regrette vraiment de n'avoir pas pu visiter le site d'Aulnay et comparer les conditions de travail avec celles de son usine.
On a notamment des cadences sur les chaînes de montage qui sont élevées. Ce n'est pas toujours facile, il y a des problèmes d'ergonomie. On se bat pour tenter d'améliorer les choses, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'aurais vraiment voulu voir les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers français.
Agathe Martin travaille depuis 13 ans à Aulnay et elle est ravie d'accueillir ses collègues venus de l'Est.
On nous dit que de l'autre côté des frontières, c'est pas les mêmes, la même chose, mais si, justement, c'est la même chose de chaque côté des frontières, c'est les mêmes patrons, bon là c'est PSA, et puis on travaille tous, visiblement, là j'ai un peu écouté, on travaille tous dans les mêmes conditions, les charges de travail c'est difficile, le temps de travail c'est long, voilà, donc c'est important de pouvoir se dire ça d'une frontière à l'autre.
Et c'est pour rassurer les salariés français que Pavel Ondriz, du syndicat Kovo en Slovaquie, a fait le déplacement en France.
La méthode est partout la même. Quand on demande par exemple une augmentation en Slovaquie, on nous dit « si vous n'êtes pas content avec les salaires que vous touchez, eh bien on va transférer la fabrication ailleurs, en Chine par exemple ». Et je suppose qu'en France, ils disent la même chose aux salariés. C'est important que les Français sachent qu'on subit la même pression.
Un message bien reçu par Jean-Pierre Mercier de la CGT.
C'est exactement les mêmes problèmes, c'est les problèmes de salaire, les problèmes de cadence, les problèmes de conditions de travail, de maladies professionnelles. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est, en tout cas dans les usines de Kolín et Trnava, le turnover est extrêmement important. Même si le salaire moyen est supérieur dans les usines PSA, légèrement supérieur, les ouvriers en fait quittent au bout de 3-4 ans, ils quittent l'usine tellement c'est dur. Il y a une bagarre à mener au niveau de l'Europe, au moins pour avoir un minimum salarial au niveau de l'Europe.
Demain, les salariés tchèques et slovaques auront un avant-goût de la mobilisation à la française, puisque les salariés français de PSA doivent manifester devant le Mondial de l'automobile, porte de Versailles.
Voilà, c'était un reportage RFI signé Mounia Daoudi. Pour une prochaine émission économique, c'est la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz, and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz at 1400 hours on 11.